c'est difficile à définir. C'est comme si vous voulez que je vous dise qu'est-ce que c'est l'amour. C'est une impression, c'est un sentiment, c'est l'altitude en même temps, c'est la montagne, c'est plus près du ciel, si vous voulez, cette lumière.
Un dromadaire sur l'épaule, Mélanie Croubalian et Monsieur T.
Bonjour à tous, bienvenue en Bolivie. Aujourd'hui à La Paz, il fait beau, mais pas plus de 3 degrés. Couvrez-vous. Quand on est à La Paz, elles sont omniprésentes et dominantes, immobiles et majestueuses. L'altiplano bolivien est entouré de quelques-unes des montagnes parmi les plus hautes du monde. L'Illimani et l'Ilampu servent de berceau à la ville, au cœur de la cordillère royale des Andes, à plus de 6000 mètres d'altitude. Les hauts plateaux boliviens, ce sont ces paysages de montagnes spectaculaires, des sommets que l'on contemple d'un peu plus bas, mais quand même autour des 4000 mètres, dans ces mondes parallèles que sont La Paz et El Alto. Monde parallèle, puisqu'à cette altitude, il ne fait jamais plus de 20 degrés, même en plein été. L'eau bout à 80 degrés. La respiration est difficile, au point que la FIFA a interdit les matchs officiels à La Paz, au grand dam d'Evo Morales d'ailleurs. Mais surtout, à cette altitude, la lumière est absolument unique. Une lumière de photographe, de cinéaste, de peintre. Une lumière qui se reflète comme des milliers d'éclats de verre sur le lac au nom qui fait pouffer les enfants parfois. Le lac Titicaca. Un lac que vous visitiez enfant, Carmen Perrin, je crois. Bonjour.
Bonjour.
Vous visitiez le lac Titicaca quand vous étiez petite ?
Bien sûr, c'était et c'est toujours un lieu sur lequel je retourne avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt.
C'est pas loin de La Paz. Hein. Vous êtes artiste, vous êtes d'origine bolivienne, vous avez longtemps enseigné aux Beaux-Arts à Genève, vous êtes arrivé pour la première fois à l'âge de 7 ans à Genève, quand vos parents ont quitté la Bolivie et La Paz, où vous êtes né.
Oui.
Mais vous gardez des liens très forts avec votre pays natal. Hein.
Oui, c'est des liens très forts en fait, effectivement. Tout à l'heure, vous parliez de la lumière pour le cinéma ou la photographie. En fait, mon père en Bolivie était photographe et cinéaste. Et plus précisément, il a tourné plusieurs films avec des réalisateurs. Et c'était lui qui était en fait le chef opérateur, donc qui prenait les images. Donc moi, j'ai grandi à côté d'une personne dont j'étais très proche. Et qui m'a appris à regarder l'espace, à regarder les matières, à apprécier la lumière et à surtout aussi regarder les, écouter et observer les gens.
Mais justement, cette lumière, Carmen Perrin, en quoi elle est différente là-bas ? On entendait au tout début de l'émission, on accroche comme ça, l'autre Carmen qu'on entendra tout à l'heure, Carmen de La Paz, dire que c'est inexplicable.
Inexplicable, je ne sais pas. En tout cas... C'est une lumière qui ne pardonne pas, c'est-à-dire qu'elle donne tout à voir. Et en même temps, dans les moments plus doux, comme le coucher du soleil ou le lever du soleil, elle est cristalline et elle valorise les couleurs, les matières, les ombres. Ouais, c'est assez magique.
Vous diriez que c'est grâce à la lumière de La Paz où vous avez grandi vos 7 premières années que vous avez aujourd'hui ce regard particulier d'artiste ?
Je pense que ça y participe beaucoup, oui.
Ça l'a façonné.
Oui.
On parlera ensemble tout à l'heure de votre parcours, de votre lien particulier à la Bolivie, à sa lumière. Puis on parlera aussi de vos projets, puisque vous en avez, hein, et puis surtout des projets liés à la Bolivie. Pour l'instant, si vous êtes d'accord, je vous propose d'entendre donc l'autre Carmen. Hein, je le disais tout à l'heure, elle s'appelle Carmen comme vous, elle est artiste, comme vous, elle est bolivienne de La Paz. Elle y vit d'ailleurs à La Paz. Et Stéphane Herzog, vous êtes allé la voir chez elle. Son nom complet, c'est Carmen Bilbao La Vieja. C'est une vraie native de La Paz, une vraie paseña ?
Absolument, elle vient d'une très vieille famille espagnole, donc des anciens conquistadors installés en Bolivie, et c'est une vraie paseña, absolument.
C'est une artiste qui est reconnue en Bolivie, une artiste connue ?
Je n'ai pas vraiment les moyens de juger, je sais qu'à La Paz, c'est quelqu'un qui tourne depuis longtemps, qui a fait de la peinture, qui a exposé, c'est un peu la bourgeoisie éclairée, locale. C'est quelqu'un qui est connu en tout cas à La Paz.
Qui expose aussi.
Voilà.
La visite commence chez elle, dans son appartement. On peut voir depuis cet appartement pas mal des montagnes de La Paz, un magnifique panorama. Donc j'imagine que vous êtes quand même à un étage élevé. Vous êtes à quel étage là ?
On est au 10e étage dans un immeuble moderne du quartier de Sopocachi.
On vous retrouve donc dans ce quartier de Sopocachi. Pour l'instant, vous êtes encore en bas de l'immeuble de Carmen et vous allez y monter tout de suite. On vous suit.
Alors voilà, avenue du 20 octobre, on est en train d'aller chez Carmen, il est 17h12, voilà. Que dirais?
Nada.
Bueno, adios. Là il y avait une cholita, une dame avec les beaux chapeaux melons, qui rigolait en me voyant, et on est dans ce quartier donc. Sopocachi, où il y a des maisons basses, assez anciennes, et aussi des buildings. Ça a l'air assez chic. Superbe maison, avec des balcons en bois. Et on arrive chez Carmen. On arrive devant l'édifice Chapec, au moins une vingtaine d'étages, en verre, en béton, au moins dans un poste de police, au soleil couchant. Voilà, nous sommes au 2685. C'est pas là. Appartamento B. Carmen.
Carmen,
si.
Matias Presbe?
Si, si.
Matias Presbe?
Si, Carmen y Matias.
Oui, allez.
Ok, on rentre alors.
Oui.
Allez. Viennent avec son chien. Comment ça s'appelle?
Kim.
Ouh là là, et la vue magnifique sur Illimani.
Illimani.
Voilà, on monte en ascenseur avec des vitres devant l'ascenseur et c'est juste magnifique. On voit toute la partie sud de la Paz.
Hasta
luego. Bueno. Ah. Et monsieur Matthias Preisberg nous accueille. Oh, c'est sympa. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bah, c'est bien de vous voir après toutes ces semaines. Hein.
À La Paz, je suis très fière d'être née à La Paz. J'adore ma ville.
Et pourquoi fière?
Parce que je trouve que c'est une ville exceptionnelle. Elle est pas courante, c'est une ville panoramique, comme c'est pas possible. C'est dur à vivre, cette ville. C'est dur à vivre à telle altitude, mais moi, j'adore ma ville. Je viens d'une famille nombreuse. Une famille traditionnelle, Bilbao la Vieja, c'est un nom des familles traditionnelles ici à La Paz. On est 6 sœurs, on n'a pas de frères. Donc moi, je suis née très près des femmes. Je suis vraiment très sensible. J'ai fait l'université à La Paz aussi, dans l'université publique. J'ai fait les beaux-arts.
Vous m'avez parlé au téléphone d'artisanat. Mais pendant une longue période, en fait, vous êtes consacrée à la peinture?
Bah oui, moi, je suis peintre des formations et je dis maintenant que je suis artisane d'option. Ma formation, c'est les beaux-arts. Et puis pendant 20 ans ou plus, j'ai fait professionnellement la peinture. Et puis au bout d'un moment, moi, j'ai eu ma dose avec les circuits galeries et tout ça. Et puis le commerce de la peinture. J'étais aussi stimulée par le fait d'offrir une alternative aux jeunes générations ici en Bolivie. Professionnellement, il y a très peu de possibilités, d'opportunités pour les jeunes. Et moi, je suis très inquiète parce que moi, je vis très proche des jeunes. J'ai deux filles, jeunes filles, et énormément de neveux, nièces, etc. Donc, je vois de tout près les opportunités professionnelles. Pour un pays pauvre comme la Bolivie, il faut trouver d'autres travails, d'autres métiers aussi, offrir d'autres possibilités. Et puis sortir un peu du circuit des académies, d'universités. Et puis voilà, ça a été le défi d'ouvrir un atelier pour montrer qu'on peut faire avec très peu d'argent et pas de machine. Rien que la créativité et les mains, on peut faire un travail. On peut exercer un métier. En fait, mon travail en peinture, ça a toujours été entre la peau urbaine et la peau humaine. Alors, j'ai travaillé ces deux choses-là. Pour moi, les maisons, c'est ça. La ville, c'est ça aussi. On voit le passage des gens. Finalement, la trace de l'histoire, de la vie, de la culture, des mentalités, l'époque, tout ça on peut lire sur les murs, sur les fenêtres, sur l'architecture, etc. Pour moi, la ville de La Paz, c'est particulière, c'est ma ville à moi. Et puis, s'il y a une chose exceptionnelle à La Paz, c'est la lumière. Alors ça, oui, pour un peintre, c'est quelque chose de merveilleux.
Comment est-ce que vous définissez la lumière ici?
C'est difficile à définir. C'est comme si vous voulez que je vous dise qu'est-ce que c'est l'amour. C'est une impression, c'est un sentiment, c'est l'altitude en même temps, c'est la montagne. C'est plus près du ciel, si vous voulez, cette lumière. Quand j'ai habité en Suisse, le seul endroit où j'ai retrouvé un peu la lumière de La Paz, c'était à Zinal, où j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois. Et voilà, c'est le seul endroit où j'ai retrouvé un peu la lumière de La Paz.
Alors, vous pouvez nous décrire, nous qui ne connaissons pas, là, qu'est-ce qu'on voit?
Ben voilà, ça c'est ma fenêtre préférée et mon premier regard de chaque jour. Et en face, on a l'Illimani, c'est la montagne enneigée, c'est un volcan endormi. Selon la tradition et les croyances natives ici en Bolivie, les montagnes ont un esprit. On les appelle achachilas, c'est un mot aymara, pour dire que c'est des protecteurs. Alors on lui fait la révérence tous les matins.
On se penche.
Moi en tout cas, et puis voilà, je me sens bénie de l'avoir en face de moi.
D'accord.
Et puis bon, d'ailleurs, partout dans le monde, moi je sens que la terre est sacrée, et moi j'ai cette relation avec la terre. Donc l'avoir en face, c'est vraiment un cadeau pour moi. Ici, on a la vue côté sud, c'est la dent du diable, la petite colline qui sort là-haut, la muela del diablo. On fait des jolies balades là-haut. On a le col là-bas à gauche, qui s'appelle le Valle de las Animas, la vallée des âmes. Et puis, il y a des formations, des érosions naturelles de toute beauté. C'est vraiment un lieu énergétisant fort. Et d'ailleurs, il y a énormément de gens qui vont faire des méditations, des choses comme ça là-bas. Et puis, dans le sud, qu'on voit maintenant un peu bleu, plus au fond, ça descend vers le sud du pays. En allant droit, on pourrait arriver à Cochabamba. s'appelle Aranjuez, où il y a les collines rouges.
Ouais.
Avant, quand j'étais petite, tout était à la campagne, hein, et ça n'existait pas, c'était pas habité, ça. Et c'est là qu'on cultivait les maïs, les patates pour la ville. Et puis, on faisait des balades, l'excursion scolaire, on le faisait dans les collines rouges que vous voyez là-bas en face. Maintenant, c'est complètement habité.
Et vous avez grandi dans quel quartier ?
Et ben, on ne le voit pas depuis ici, mais c'est juste là-bas en face. Et c'est Miraflores. Alors, les quartiers riches se trouvent dans toute cette partie-là, au fond, le sud. Et puis, l'autre côté, c'est Sopocachi. On voit où il y a les arbres, la colline avec des arbres, c'est le Monticulo. C'est un lieu traditionnel de La Paz. Et vraiment, c'est la bourgeoisie bolivienne, des Paseñas, qui allait se balader les dimanches là-bas. Existe même un tango avec les paroles qui chantent et qui racontent les balades à Sopocachi, la vue de l'Illimani, parce que depuis là-bas, on voit l'Illimani. Alors, on allait exprès au Monticulo pour aller regarder le coucher de soleil sur l'Illimani.
Donc, c'est quoi Paseña ?
De La Paz.
Ah, de La Paz, Paseña de La Paz. Paseña, ouais. Et c'est un jardin, donc ?
Oui, c'est un jardin.
D'accord.
Ouais. Et ça reste encore des vieilles maisons autour où restent les familles traditionnelles de La Paz.
Et alors, et plus là, haut, on voit des collines haut, très hautes là. Hein.
Oui, alors ça, c'est des quartiers périphériques qui ont été construits, mais vraiment dans des endroits impossibles. Il y a souvent des accidents, des éboulements, parce que c'est pas de la terre ferme. Mais c'est, comme vous voyez, c'est archi-habité, hein. S'il y a même des éboulements, les gens reconstruisent sur le même endroit.
Est-ce qu'on peut dire que c'est des bidonvilles ou non ?
Oui. 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 Ceux qui sont vraiment sur la pente.
Sur les pentes, très raides.
Voilà, oui. Okay. Alors oui. Ouais. Oui, c'est sûr.
Et là, ça s'appelle comment alors ?
Il y a différents quartiers.
D'accord.
Mais le plus grand, c'est Pasanqueri qui est là-haut, qu'on voit.
Okay.
Et puis Tembladerani aussi. Tembladerani, ça veut dire où la terre tremble.
Oulala.
Mais les gens ont construit quand même. Parce que, en fait, sous la ville de La Paz, il y a 900, je crois, courants d'eau.
Uh-huh.
Entre rivières importantes et courantes. Donc, la terre, elle n'est pas solide n'importe où, quoi. Donc, ces quartiers-là, ça ne devrait pas être habité, mais c'est habité.
Donc, régulièrement, il y a des accidents, il y a des morts, il y a des blessés ?
Si la saison des pluies elle est forte, oui, il y a plus de risques. On a vu plusieurs fois dans ma vie, j'ai vu, pas chaque année, mais j'ai vu plusieurs fois. D'ailleurs, on voit les formations, de temps en temps, il y a des creux. Et ça veut dire qu'à un moment donné, c'est descendu, on bloque. Et puis bon, la ligne droite, c'est l'alto, c'est là qu'il commence l'alto.
Là, c'est l'alto, c'est là-bas,
bah
là-dessus.
Oui. Bah oui, d'ailleurs, c'est assez impressionnant de se balader là au bord. Parce que on voit les quartiers, les maisons. Il y a une rue avec des façades, on marche et puis hop, tout d'un coup, ça s'ouvre. La séparation entre une rue avec l'autre, et c'est comme une tranche coupée, puis on voit la ville de La Paz. Et c'est assez impressionnant, c'est très très beau, c'est magnifique.
Il y a encore d'autres grandes fenêtres ?
Oui, ouais, on a des fenêtres. Avant, il n'y avait pas des buildings, hein. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait que des petites maisons. Ça, c'est des maisons typiques des Sopocachi. Et puis, on voit encore toutes les petites maisons là-bas, des maisons un peu européennes, là-bas avec les poutres sur la façade. Vous voyez.
Presque des maisons allemandes ou hollandaises.
Ouais, voilà. C'était comme ça, ce quartier. Et puis, c'est devenu maintenant le quartier des buildings, qui est très embêtant d'ailleurs, parce que. Voilà, un building comme celui-ci, ça peut être tout d'un coup caché complètement parce qu'ils ont décidé de construire en face, quoi. Voilà, il n'y a aucune protection et puis les permis sont assez faciles d'obtenir.
Il faut payer.
Bah oui, ouais. Ça suffit. Voilà. Voilà, ça ouvre toutes les portes.
Et toutes les peintures qu'on voit sont de vous ?
Toutes.
Toutes. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y en a deux ou trois où, qui parlent de La Paz ?
Bah, peut, justement, vous étiez à côté.
Oui, j'ai pensé.
Là, ça, c'est une série que j'avais présentée sur les toits. Moi, j'ai un atelier dans un quartier super traditionnel de La Paz qui s'appelle San Pedro. Et puis, quand je suis arrivée il y a 15 ans dans cet atelier, c'est presque au quatrième étage, c'est sous les combles. Et puis, je voyais tout à mes pieds. Donc, j'ai fait une exposition entière avec les toits que je voyais depuis mon atelier. Et vous voyez là deux tableaux qui correspondent à cette époque-là.
Voilà, nous sommes sur la place Piazza San Pedro. On se dirige vers l'atelier de Carmen pour découvrir ce qu'elle fait, ce qu'elle produit. Voilà, on arrive à un coin de maison et il faut monter au premier étage pour trouver le 1620. On rentre dans la maison. Pour aller chercher Carmenita à l'atelier 201. On sonne. Voilà. Voilà. On est rentré côté intérieur de la maison. On monte des escaliers en fer forgé. On est en face des Carmen, habillé en bleu, l'ombroc de travail, des jolies boucles d'oreilles.
Bonjour.
Souriante, comme d'habitude.
Ça va pas.
Voilà, que tal? Bon dia. Voilà. On entre dans un atelier qui se trouve sous les toits. Et on a Carmen toute jolie, avec ses cheveux très très longs, qui arrive jusqu'au bas des reins. On est un peu en retard. Ça va?
Non, c'est pas grave. Moi, j'étais en retard aussi.
Alors peut-être tu peux nous expliquer un petit peu ce lieu, déjà.
Déjà, le lieu, c'est un endroit magnifique qui nous inspire beaucoup par la lumière. Encore une fois, la lumière de La Paz, elle est présente pendant toute la journée. On a des fenêtres qui donnent de tous les côtés. Et puis, ça a été un endroit magnifique pour moi parce que après mon séjour en Suisse, quand j'habitais en Suisse, c'est-à-dire, je connaissais une famille qui descendait d'un peintre. L'ancêtre, c'est un peintre qui avait construit sous les toits à Morges, dans les vieilles maisons des Morges, un atelier magnifique. Et comme l'atelier n'était pas utilisé, ils m'ont prêté. J'ai travaillé pendant 5 ans dans cet atelier avec le chevalet, les peintures, les skis et tout le matériel qui était aux messieurs du 19e, je crois. Et puis au retour, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais trouver comme atelier pour remplacer l'atelier des Morges. Voilà. Le temps du retour, 92, ici, et ça appartient, cette maison, à des amis qui ont eu la gentillesse de nous garder nos affaires pendant les 5 ans de séjour en Suisse. Ici, c'était le Galta, qui n'était donc pas du tout habité, même pas en état pour garder des choses, des affaires. Ils ont juste organisé un coin pour nous permettre de garder nos affaires. Comme ça, ils étaient bien à l'abri, personne ne bougeait, ça ne dérangeait personne, etc. Puis au retour, moi, je viens chercher mes affaires et je me trouve avec le Galta qui a été complètement aménagé, était vide. Pour moi, c'était mais vraiment tout de suite, je me suis dit, c'est l'endroit pour mon atelier. Oh. Et puis, c'est comme ça que je suis déjà depuis presque 17 ans ici.
Alors, est-ce que tu peux expliquer et montrer un peu ce que vous faites en fait maintenant?
Oui, alors maintenant, on est en train de produire un peu de tout parce qu'on va ouvrir une boutique. On essaye de faire des objets uniques. Donc là, on reproduit le modèle. Ça, c'est toujours des modèles qu'on dessine ici. On ne copie pas, on les reproduit dans différents cuirs et on ne les fera plus. Donc, par exemple, on a ce modèle-là qui porte bien, c'est très facile à porter, ça a une bonne capacité, c'est tout cousu main.
Donc, c'est des, il y a des sacs.
Des sacs à main, voilà. Des sacs à main, c'est en différents cuirs, différents modèles. Par exemple, ce cuir-là, c'est cuir de lama. C'est un cuir difficile à trouver, mais c'est d'une magnifique qualité. Vous pouvez apprécier,
c'est lit, vraiment beau, c'est comme souple, cuir. C'est doux.
Et puis tout ça, c'est des cuirs boliviens. Là, on est en train de faire des sacs peints. Avec
des sacs en daim.
C'est des petites pochettes qu'on va les porter comme ça, et ça a la forme d'une pochette. Donc on peut, c'est facile à mettre la main pour porter des petites choses.
Donc ça, c'est toi qui les dessines?
Oui.
Et oui. Qui les réalise de A à Z?
De A à Z. Moi, je coupe le cuir, je peins les motifs, je conçois les modèles.
Dans quel coin de La Paz on va retrouver en fait ces sacs, cet
arrière-là? C'est dans les quartiers le plus typique du tourisme et d'artisanat. C'est la rue Sagarnaga, justement, sur laquelle va se trouver la boutique. Il y aura aussi la rue Linares. C'est la rue connue des sorcières.
C'est des lieux où, sans parler de commerce, où toi tu vas de temps en temps ou pas forcément dans ta...
Ah, tout le temps, tout le temps, oui. Ah, moi j'ai un plaisir énorme à voir, parce qu'on trouve de tout par là. C'est des boutiques qui sont aménagées à la bolivienne, et même avec un goût, une esthétique qui a plutôt l'origine rurale.
Avec ces femmes, les cholitas.
Bah oui, habillées à leur tradition et en même temps très intégrées ici parce qu'elles sont capables de travailler avec des ordinateurs, des calculatrices, etc. Puis ils sont hyper intégrées à la ville. Ils ont un pouvoir économique énorme parce que depuis toujours, ils ont été propriétaires du commerce. Donc, ils ont fait fortune. Et puis maintenant, c'est des gens qui ont énormément d'argent. Il y a des points de repère. On peut regarder, par exemple, les dents. Les dents avec de l'or. Là, on voit aussi les bijoux qu'elles portent. On voit tout de suite ou bien la qualité des chapeaux, la qualité des châles ou des jupes qu'elles portent nous montrent leur pouvoir. Mais c'est surtout dans les fêtes traditionnelles qu'on va montrer le pouvoir économique. Ça, c'est le coin des bijoux. Ils sont tous différents, on ne fait pas de pareil. Voilà, alors ça, c'est le bracelet. Et puis ça, c'est le collier.
Quelles sont les références, on va dire, culturelles? Est-ce qu'il y a des choses qui sont tirées de la culture indienne?
Non, maintenant, plus. Cette collection-là, c'est vraiment très varié. Ça, c'est plutôt oriental, arabe, etc. Là, c'est africain, par exemple. Et voilà, là, j'ai essayé de reproduire l'esprit des pièces africaines que j'avais, cette pièce de céramique, les médailles, et puis voilà,
Il y a encore plein de trésors, Stéphane, à découvrir dans cet atelier grenier de Carmen Bilbao de la Vieja, cette artiste artisane bolivienne. D'ailleurs, on a l'impression que Carmen est devenue plus maintenant artisane que vraiment artiste. Il y a une contradiction entre les deux métiers?
Alors, je ne sais pas s'il y a une contradiction. En tout cas, pour elle, elle a abandonné la peinture, je crois. En fait, elle l'a laissé un petit peu de côté après beaucoup d'expositions, peut-être un peu bourgeoises. Et elle a décidé de nouer avec l'artisanat, la création, et qui est quelque chose qui est très bolivien, puisque les gens là-bas utilisent pas mal de produits de seconde main pour en faire quelque chose de nouveau, ou bien pour s'habiller. Et elle aide dans cette dynamique de travail.
De récupérer des perles. Hein. Puis on l'a vu, des perles en plus du monde entier. Donc une manière de faire se retrouver le monde entier à La Paz et dans sa culture bolivienne.
Oui, et bon, elle, c'est une artiste, c'est une femme qui a voyagé. Elle est mariée à un théologien suisse. Elle a vécu aussi en Suisse. Donc elle intègre plusieurs cultures. Et en même temps, elle est extrêmement fière de la culture paceña, de la culture bolivienne. Mm-hmm. Donc elle crée des objets un peu métisses.
Demain, nous restons dans un monde de femmes. Vous nous proposez une visite d'un lieu rebelle de la société bolivienne. Je crois qu'on peut le dire comme ça, vraiment. Ça s'appelle Mujeres Creando. C'est une maison de féministes.
Voilà, c'est une maison de féministes, lesbiennes, anarchistes. Un endroit très inattendu dans une ville un peu machiste et un peu passéiste, comme La Paz.
Eh bien, vous êtes bien courageux. Vous serez là-bas demain. Et vous serez toujours accompagné de Sébastien Suarez, hein, votre traducteur, qui lui aussi découvrira cette maison pour la première fois.
Oui, tout à fait. Il avait quelques angoisses à y aller, d'ailleurs.
À découvrir demain. Merci, Stéphane.
Desde la primera vez que se cruzó en mi camino, perdone usted, señora, si peco de atrevimiento. Soy soltero, señora, no tengo impedimento para casarme con su hija. No tengo impedimento. Le prometo, señora, con su hija ser muy tierno. Si me acepta como yerno, le prometo cuidarla. Si me acepta como yerno, señora, su hija. Se cruzó en mi camino, desde la primera vez que se cruzó en mi camino. Perdone usted, señora, si peco de atrevimiento. Soy soltero, señora, no tengo impedimento para casarme con su hija. No tengo impedimento y no se puede mandar. ¿Y dónde manda el corazón? Tiene la razón en cosas del corazón y no se puede mandar. ¿Y dónde manda el corazón? Interviene la razón en cosas del corazón.
Ponctuer cette visite dans le domaine de Carmen Bilbao La Vieja, rien de moins qu'une demande en mariage, si j'ai bien compris. Carmen Perrin va nous confirmer ça, mais ça s'appelait Señora Suija. Le groupe s'appelle Los Carcas. C'était juste ça,
je
Carmen
confirme.
Perrin. Ouais, c'était
oui.
Une demande en mariage, hein, auprès de la maman directement. Hein.
Oui.
Madame, votre
très
fille.
Très traditionnelle.
Vous connaissiez ce groupe ?
Non.
On quitte donc l'univers de Carmen Bilbao La Vieja pour entrer dans le vôtre, Carmen Perrin, maintenant. Je rappelle que vous êtes artiste, vous vivez à Genève, mais vous êtes née, vous aussi, à La Paz. Alors, d'abord, je vais vous demander une réaction à cette visite chez votre homonyme.
Eh bien, je pense que je suis aux antipodes de cette femme, parce que je n'ai pas grandi comme elle à La Paz, même si elle a vécu en Suisse. Moi, je suis arrivée en Suisse à l'âge de 7 ans. Je n'ai pas choisi de partir puisque ce sont mes parents, mon père, ma mère avec mes trois sœurs qui avons voyagé ici. Mais ça m'a fait en fait vivre la passe et la redécouvrir ensuite puisque j'ai toujours gardé des contacts assez réguliers avec ce pays, d'une manière totalement différente puisque c'est de l'extérieur que moi j'ai appris à connaître. Et à retrouver mon pays.
Et puisque votre papa s'était fait expulser finalement de la Bolivie, pour des raisons politiques.
Oui, en fait, il s'est pas vraiment fait expulser, il a été expatrié. Donc il s'est fait expulser de la Bolivie, il est allé en Argentine, et en Argentine, ne trouvant pas de travail, il a décidé de revenir à La Paz, pour venir nous chercher et retourner en Suisse. Parce qu'en fait, mon père est né à Genève.
Vous avez un quart suisse quand même dans votre sang.
Voilà, oui. Il a fait ses études aussi avec son frère à Genève.
Donc un retour finalement au pays,
voilà.
À notre pays de montagne.
C'est pas un exil involontaire, c'était une manière de décider un moment qui était politiquement critique pour lui de quitter le pays pour essayer de recommencer une vie ailleurs et peut-être aussi pour donner un meilleur avenir à ses enfants. Et je pense qu'il a eu raison de le faire.
Et aujourd'hui, vous en tout cas, moi, j'y ai gagné. Parce que, oui, voilà, vous retournez quand même maintenant en Bolivie, donc vous avez quand même encore le lien avec ce pays-là. Même si vous n'y vivez plus. Vous êtes retourné ensuite, j'ai lu ça dans votre biographie, mais vous êtes retourné à 18 ans pour un genre de voyage initiatique, on peut appeler ça comme ça.
C'était un petit peu plus tard que 18 ans, parce que c'était après la maturité. Je devais avoir 21 ans, 22 ans, je ne sais plus. Ben oui, c'était un voyage avec ma meilleure amie de l'époque, qui s'appelle Amalia Morales, qui est espagnole. Et puis on s'était dit, après la matu, on y va, on va faire un tour en Amérique latine. Et pendant, je crois, 6 mois à peu près, on a fait un tour de l'Argentine, Chili, Pérou, Bolivie.
Mais est-ce que la Bolivie avait là-dedans une valeur particulière? Parce que c'est vrai que ça arrive souvent après la matu qu'on fasse un voyage comme ça, un grand voyage avec une copine, un copain ou en groupe, tout seul. Est-ce que la Bolivie était un choix délibéré pour vous?
Bien sûr, c'était le but du voyage en fait. Le grand tour en Amérique latine, c'était pour voir du pays. Mais le but, c'était retrouver les lieux de mon enfance.
Et vous les avez retrouvés?
Oui, mais pas d'un seul coup. Je pourrais dire que jusqu'à aujourd'hui, je continue à les retrouver. Parce qu'en fait, il y avait eu un moment où on s'est dit on reste à La Paz ou on part. Et puis pour finir, on a commencé par La Paz, on a fait un grand tour et on est revenu à La Paz. Et en fait, la dernière partie de notre voyage a eu lieu sur une île au milieu du lac Titicaca. C'est qui s'appelle l'île du soleil. Et en fait, ce lieu, c'est vraiment le lieu avec lequel j'ai gardé le contact le plus fort.
C'est le lieu où votre père vous emmenait enfant.
Oui, et c'est le lieu où mon père a beaucoup filmé les gens, plusieurs générations d'Indiens, d'un village qui s'appelle Yumani. En fait, c'est des Aymara. Et moi, j'ai grandi à côté d'un père qui m'amenait souvent sur ses tournages et qui m'a appris à regarder les gens, à regarder leur travail, les femmes qui tissaient, les céramiques, le paysage, la lumière, les corps et l'espace aussi, surtout l'espace.
Cette île du soleil, quand vous y êtes retournée dans votre voyage après la matu ou quand vous y retournez maintenant, vous la trouvez à chaque fois changée ou est-ce qu'elle a gardé l'esprit de votre enfance?
C'est difficile parce que c'est difficile à dire parce que l'esprit de mon enfance, je m'en souviens pas tellement. J'étais trop petite. Mais par rapport à tous les voyages que j'ai faits depuis l'âge de 22 ans, l'île a beaucoup changé. Et elle a beaucoup changé aussi parce que, d'un côté, elle a changé parce qu'elle s'est fait, elle a subi une seconde colonisation par les agences touristiques qui malheureusement ont acheté des terrains et ont commencé à installer des hôtels où le tourisme, il est ce qu'il est, mondial, avec tout ce qu'on peut imaginer de pseudo-folklorique et ridicule. Et d'un autre côté, ce tourisme, il a amené quand même un niveau économique de
bah oui, des emplois
de plus en plus, oui, voilà, de plus, en plus positif avec les années. Et en ce moment, c'est assez drôle parce que maintenant que les gens, depuis 10 ans que le village a l'électricité, il y a un plus grand confort, une plus grande possibilité pour les gens de vivre mieux et puis d'améliorer le quotidien. Et du coup, beaucoup d'habitants de l'île du Soleil ont ouvert aussi des petits hôtels qui fonctionnent très bien, pas du tout avec le même public que les hôtels des agences, mais plutôt des gens qui voyagent avec le sac à dos, et ça marche très bien. Et au fur et à mesure que la qualité de vie et le niveau de vie de ces personnes s'est amélioré, il y a eu un travail aussi de la part de la communauté du village pour améliorer les lieux, quoi, rendre les maisons se sont beaucoup améliorées dans le sens où elles ont été restaurées, les chemins restaurés. Je me rappelle d'une époque avant les années 80 et pendant les années 80 encore, où on avait vraiment la sensation qu'on était dans des espaces de très grande pauvreté. Malgré l'extraordinaire beauté du paysage, mais exceptionnel, les villages donnaient une sensation que les gens plutôt vivaient beaucoup à l'intérieur de leur maison avec une très grande pauvreté. Mmh. Et là, la qualité de vie s'est améliorée et ça, c'est formidable.
Donc, il n'y a pas que du mauvais. Parce que c'est vrai qu'on a souvent de l'Occident cette idée « Oh, mais il ne faut pas trop développer, il faut garder l'authenticité, etc. » Là, je pense que les habitants de La Paz, en tout cas, ne voient pas ça de cet œil et vous non plus, finalement.
Non, mais... ce qu'il faudrait, c'est aider encore plus ces gens à reprendre en main le contrôle de leur terre, quoi, de leur culture par rapport à des gens qui caricaturent trop en fait ce qu'ils sont sur le lieu même où ils vivent. Vous voyez ce que je veux dire?
Qui pensent qu'ils doivent projeter une image folklorique alors que finalement il n'y a pas tellement besoin de ça. C'est parfois autre chose qu'on cherche.
Puis cette culture, il ne faut pas en garder une image qui la paralyse dans des images stéréotypées et folkloriques, justement, dans le mauvais sens du terme. Et puis surtout l'observer pour voir comment elle revendique aujourd'hui de plus en plus sa culture, elle revendique de plus en plus sa culture et comment cette nouvelle énergie de revendication embellit et sort, quoi, s'exprime. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui me passionne, d'aller observer là-bas.
L'évolution.
Oui, enfin l'évolution, mais aussi un espoir, quoi. Un espoir, parce que c'est seulement depuis quelques années qu'il y a cette espérance d'être enfin reconnue, d'avoir une autre place que toujours la place d'exploiter, et d'être toujours aux ordres de l'oligarchie blanche, à laquelle ma famille a beaucoup appartenu, d'ailleurs.
Mais justement, Carmen Perrin, quelle place vous avez-vous? Quel rôle vous avez? Comment les gens vous perçoivent? Parce que vous êtes une Bolivienne qui a grandi là-bas, en même temps vous êtes un peu Suisse, vous partez pour observer les gens, quel lien, quel rapport vous avez avec les gens là-bas?
Disons que comme je n'y suis pas retournée jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai pas d'amis, si vous voulez, dans le sens où je n'ai pas grandi vraiment là-bas, puisque je suis arrivée à 7 ans ici. Mais moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que j'ai vécu, c'est le fait que plus j'avance dans ce que je suis, dans ce que je fais à travers mon travail artistique et ce qui me constitue, et plus je suis consciente que je suis dans un entre-deux et que j'ai grandi dans un mouvement entre la Bolivie, l'Amérique latine et puis la culture européenne. Parce qu'en étudiant ici, en grandissant ici, évidemment que je suis plutôt européenne, puisque j'ai fait l'école des beaux-arts, j'ai étudié à l'université.
Et vous avez passé la plupart de votre vie
ici. Bien sûr, et je suis reconnue comme une artiste suisse, pas comme une artiste bolivienne. Mais en même temps, malgré cette reconnaissance et malgré cette identité forte qui s'est construite autour de mon travail artistique, je me suis toujours sentie... pas tout à fait non plus intégrée, dans la mesure où, comme on sait déjà, quoi, les quelques premières années de notre vie sont fondamentales par rapport à ce qui nous constitue. Et je pense que ce que j'ai vécu étant petite là-bas, Et de nouveau, à travers des voyages et à travers des moments de vie, comme ça, en accompagnant mon père sur l'Altiplano ou sur le lac Titicaca, il y a quelque chose qui s'est construit, qui a été fondamental pour la fabrication des formes de base de mon travail artistique actuel et de mon
façonner
rapport
votre regard d'artiste.
De mon rapport aussi avec les gens, avec les corps, oui, et puis les matières, quoi, les matériaux.
Justement, les matériaux, on va en parler parce qu'on entendait dans le reportage Carmen Bilbao La Vieja qui recycle des perles pour faire des bijoux, enfin qui utilise beaucoup la récupération. Alors, vous, c'est pas tellement la récupération, si j'ai bien compris, mais c'est plutôt du matériel qui n'est pas a priori destiné à faire des œuvres d'art. Vous travaillez avec la quincaillerie, du matériel de quincaillerie.
Ça fait. Cette attitude était très forte. Dans la première partie de mon travail, donc depuis les débuts des années 80 jusqu'à environ il y a une dizaine d'années, quand je faisais vraiment des sculptures avec des serre-joints, des vis, des plaques de tôle, et que je travaillais beaucoup autour de l'espace, la tension et la transformation d'une forme en relation avec le déplacement du corps du spectateur et le vide, les pleins, les choses comme ça, des choses architectoniques. Et depuis quelques années, je suis de plus en plus impliquée dans l'espace public. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler plus directement avec l'espace, avec des éléments liés à des contextes, donc qui sont déjà là quand j'arrive, et que je m'approprie et que je déplace et que je reformule à travers un langage qui m'est propre et qui n'a pas tellement changé depuis bientôt 25 ans, mais que je reformule aujourd'hui avec un vocabulaire différent. Et puis dans le travail d'atelier, en ce moment je travaille avec, c'est vrai, des matériaux, mais ces matériaux sont plus des outils pour questionner le corps et la perception du spectateur ou par le spectateur dans l'espace qu'il occupe et qu'il traverse, et en relation avec sa conscience du lieu, avec une dimension temporelle, avec la lumière.
Mais je vais vous citer, là vous dites par exemple, ce n'est pas tant l'objet d'art qui est important que les lieux et les liens, vous essayez de créer des liens avec ces objets. Je reviens à la Bolivie, puisqu'on visite la Bolivie toute cette semaine dans Dromadaire sur l'épaule. On pourrait imaginer une exposition ou une de vos actions en Bolivie, parce que c'est important les liens aussi là-bas, d'investir les lieux, l'espace urbain.
Oui, ils sont importants, mais en même temps... Il faut pas les faire n'importe comment, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de les construire, ces liens. Et là, le projet pour lequel je vais partir lundi prochain en Bolivie avec Michel Favre, qui est cinéaste et plasticien suisse, eh bien, il a justement une forte relation avec un lien possible, qui enfin s'est avéré possible. Et ce lien, en fait, il se concrétiserait peut-être, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, il se concrétiserait à partir justement d'un lien que, très tenu, très fragile quand même, mais que j'ai gardé avec cette communauté de l'île du Soleil, de Yumani, et surtout quelques personnes qui sont, je pourrais dire aujourd'hui, mes vrais amis boliviens, que je vais visiter avec plaisir, comme on retrouve des amis à qui on veut donner des nouvelles et avec qui on a un échange très riche.
Un genre de famille de cœur. Donc racontez-nous, vous allez partir avec Michel Favre, lui avec sa caméra, vous avec plein d'objets, plein d'idées.
Moi, je vais partir aussi avec une caméra.
D'accord.
On aura chacun une caméra.
Et puis, vous allez vous installer là, sur l'île du Soleil.
On sera entre La Paz et l'île du Soleil, en fait, parce que je ne peux pas dévoiler tout le projet, tout simplement, parce qu'on est en train de commencer à écrire le projet, donc on ne sait pas encore quelle forme définitive il prendra. Mais en gros, juste pour des points essentiels, ce projet, il a un lien avec mon rapport... le lien principal avec lequel j'ai gardé le lien avec la Bolivie, le rapport avec la Bolivie, qui est mon père. Et mon père a réalisé, comme je disais au début de l'émission, des films avec des cinéastes boliviens, comme Jorge Ruiz, par exemple, où il était en fait chef opérateur, il était derrière la caméra et il faisait les images. Et puis, il se trouve qu'il a fait Apparemment, en tout cas, deux films, peut-être trois films, seuls, sur l'île du Soleil, dans les années 50. Oui, en gros, début des années 50, fin des années 50. Et en fait, par quelques films, ou fragments de films que j'ai de mon père, il était surtout, lui, intéressé à filmer les gens. C'est-à-dire, il filme les visages, il filme les danseurs, la musique, le travail, beaucoup le travail, les gestes de travail, les choses comme ça. Et puis, ces deux ou trois films qu'il a fait seul, en fait, avant de décéder, avant de venir mourir en Suisse, parce qu'il était tombé malade, il les a offerts à la Cinémathèque de La Passe. Et moi, je n'ai jamais vu ces films. Et donc, on va commencer par aller voir ces films. Par contre, je sais par les notes de mon père que ces films ont été tournés avec différentes générations de cette communauté de l'île du Soleil. Et en gros, le projet va se construire sur une idée de ramener à cette communauté ces images par le fait de fabriquer en collaboration avec des personnes de cette communauté un grand écran et d'organiser un peu comme une fête autour de cet grand écran qu'on va construire, une sorte de cinéma en plein air. Et sur l'écran, on va projeter ces films. Et ensuite, le film continuera à se faire, je ne sais pas de quelle manière, mais dans un lien de réception et de réaction de la part de la population face à ces images.
Qui se verra elle-même ou qui verra ses ancêtres,
verra l'arrière-grand-père, voilà. Et ça, c'est juste une hypothèse de départ.
On attend la suite.
À partir de quoi un film va se construire et s'écrire avec le temps qu'il faudra, je ne sais pas en combien.
Et vous partez bientôt, je crois.
Lundi.
On peut vous dire bon voyage déjà, alors.
Oui, merci.
Et tout bon film surtout. Amusez-vous
merci.
Bien. Merci beaucoup, Carmen Perrin, de nous avoir raconté votre La Paz, vos projets pour la Bolivie. Je vous propose de... on va terminer en écoutant... on n'a presque plus le temps d'écouter de la musique, mais on va simplement écouter la musique de l'émission, et puis ça suffira. Merci beaucoup, Carmen Perrin. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci, au revoir.
Radio Suisse Romande, la première, un dromadaire sur l'épaule.
Voilà, le voyage se termine aujourd'hui. Demain, on remonte à La Paz, promis, et puis on écoutera cette fois, de la musique bolivienne encore. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission. Stéphanie Coudray, notre assistante, Dani Sulam, qui s'occupe de notre site internet. Je vous rappelle l'adresse, c'est dromadaire.rsr.ch. Vous ne mettez pas les 3 W, ça marche. Merci à Monsieur T qui a réalisé les carnets de route, à Laurent Pavia qui choisit les musiques de l'émission. Et puis enfin, merci à Samuel Morier-Genoux en régie et Anne Marchand à Genève. Très bon après-midi à vous, Mélanie Croubalian, Stéphane Herzog. Salut à vous, il va être 10h à La Paz et tout juste 15h sur la première.